Voudriez-vous nous présenter l'Université de Caen dans son passé et aussi dans ses perspectives d'avenir?
Bonjour à tous et à toutes, c'est Clara et bienvenue sur Radio Phoenix. Nous sommes le jeudi 14 mai et il est midi et on se retrouve comme tous les jeudis pour notre rendez-vous hebdomadaire Fake News. En cette période de partiel et de rattrapage, nous allons parler du podcast Café Noisette et Révision, créé par le pôle accompagnement aux réussites étudiantes de la direction des études et la vie étudiante de l'Université de Caen. Bérénice Duquesne nous le présente. En seconde partie d'émission, nous allons parler de précarité menstruelle. Récemment, une enquête a été ouverte par l'Université de Caen à ce sujet. Bérénice Setter, à l'initiative de l'enquête, nous en dit quelques mots.
L'invité du jour sur Fake News.
Aujourd'hui, donc en cette période de partiel, nous vous présentons des tips pour mieux réviser, notamment du podcast Café Noisette et Révision. Pour nous en parler, nous recevons Bérénice Duquesne, donc chargée d'accompagnement à la réussite étudiante à l'Université de Caen. Bonjour.
Bonjour.
Donc ce podcast, il a été initié par le pôle accompagnement aux réussites étudiantes de la direction des études et la vie étudiante de l'Université de Caen. Et avant toute chose, comment est né ce podcast ?
En fait, nous, notre mission principale en tant que chargée d'accompagnement aux réussites étudiantes, c'est d'accompagner les étudiants sur la méthodologie du travail universitaire. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y a certains étudiants qui n'ont pas forcément besoin d'un rendez-vous en individuel pendant une heure, plusieurs fois dans l'année, mais qui ont juste besoin d'avoir les informations. Et après, ce sont des étudiants qui sont assez autonomes pour les mettre en place tout seuls. Et en fait, on s'est dit, on a besoin de partager ces tips en fait, sur les révisions, sur la méthodologie du travail à grande échelle sur toute l'université. Et du coup, on s'est dit, pourquoi pas faire un podcast, parce que c'est un média qui est consommé par beaucoup d'étudiants. C'est un média qui change aussi, des PowerPoint ou ce genre de choses qui se font déjà. Et puis ça nous permettait de faire intervenir des étudiants, de faire intervenir d'autres personnels de l'université, de d'autres services, et d'aborder des sujets un peu plus larges qui concernent la vie étudiante en général et le métier d'étudiant, c'est comme ça qu'on l'appelle. Et du coup voilà, ça nous permettait aussi de nous faire la promotion du suivi individuel qu'on propose aux étudiants. Aussi.
Du coup, avant de créer ce podcast, vous avez pu en parler aussi aux étudiants pour savoir si ça les intéressait ou pas ?
Ouais. On en a parlé aux étudiants du coup qu'on suivait. Nous, de notre côté, on en a parlé à des étudiants du BVE, enfin voilà, on a essayé, du bureau de la vie étudiante, pardon. Donc voilà, on a essayé de voir si c'était voilà, un média qui pouvait correspondre. Et puis on s'est aussi basé sur nous, nos habitudes en tant qu'auditeur. Et on s'est bien rendu compte qu'autour de nous, presque tout le monde écoutait des podcasts maintenant.
Et donc c'est un bien pour tous.
Oui, voilà, exactement.
Et donc, on l'a dit, vous êtes chargée donc, d'accompagnement et donc à la réussite de la vie étudiante, à l'étudiante. Comment vous accompagnez de manière générale les étudiants et en quoi consiste du coup la direction ?
Alors du coup, on accompagne les étudiants donc, de manière individuelle. Donc ça peut être, on peut voir un étudiant, je ne sais pas, toutes les semaines pendant une heure, pendant toute l'année, s'il y a besoin. Ça peut être un peu plus ponctuel, tous les deux mois, on refait le point. Donc ça, c'est sur le suivi individuel et on propose aussi des ateliers collectifs, donc toujours avec un effectif assez faible. En général 10 personnes maximum pour que ça reste quand même un moment privilégié pour les étudiants et qu'on puisse passer du temps avec chacun d'eux, et ça va être du coup des ateliers sur des thématiques spécifiques comme la prise de notes, la gestion du temps, les techniques de révision, ce genre de choses. Et du coup on fait des ateliers qui durent une à deux heures en fonction de la thématique, et voilà, avec peu d'étudiants.
Et qui sont les principaux profils d'étudiants qui viennent nous voir ?
Alors, on a beaucoup d'étudiants de première année, mais c'est aussi les étudiants qu'on cible en priorité aussi, parce que voilà, première année à l'université, ils sortent du lycée, pardon. Donc c'est un environnement qui est nouveau, et en général, on sait que les premières semaines, ça peut être un peu déconcertant. Il y a beaucoup d'informations en même temps, tout un nouveau système en fait, d'apprentissage, une nouvelle méthodologie. Et du coup, c'est ceux qu'on cible et c'est ceux qu'on voit beaucoup, mais on voit surtout des étudiants qui redoublent. parce que ce sont des étudiants qui se sont du coup confrontés une première fois à la réalité universitaire. Et du coup, la deuxième fois, ils essayent de s'emparer de tous les dispositifs qui leur sont proposés pour réussir cette deuxième année, quoi.
Et pour les étudiants qui nous écoutent, que ce soit pour cette année, enfin fin d'année, c'est la fin de l'année, mais pour l'année prochaine, comment ils font pour vous rejoindre, enfin pour rejoindre ces groupes ?
Alors, pour rejoindre les groupes, ils peuvent du coup, nous on essaie de communiquer au mieux sur les ateliers qu'on fait en groupe, voilà, pour que tout le monde ait l'information et du coup, en général, il y a notre adresse email pour les inscriptions, etc. Et puis pour le suivi individuel, ils peuvent nous écrire à l'adresse dev.reussite.etudiante@unicamp.fr. Tout au pluriel. Et en fait, on peut du coup convenir d'un premier rendez-vous ensemble pour faire le point et ensemble on pourra se dire ok, je pense que là on peut faire un rendez-vous, un suivi de 3 rendez-vous, ça devrait suffire, ou alors ok, là on va faire un suivi sur un peu plus long terme, on va aller un peu plus dans le détail sur certaines thématiques, etc. Voilà.
Et du coup, ça s'appelle jusqu'à la fin de leur cursus, par exemple jusqu'au master, ou c'est vraiment...
On s'arrête aux étudiants de licence 3, pardon, parce qu'en master, en général, ils sont autonomes. Mais c'est rare qu'on ait des étudiants de licence 3, parce que déjà, ça y est, ils ont pris leur marque et ils n'ont plus vraiment besoin de nous. Le but, nous, c'est que les étudiants soient autonomes après. Donc en fait, c'est un coup de pouce quand ils arrivent en première, en deuxième année, face à certaines difficultés, mais le but, c'est pas qu'on les garde avec nous jusqu'à la fin de l'année 3.
Du coup, vous proposez différentes aides pour qu'ils soient autonomes. C'est ça le principal objectif de...
Exactement. Ouais, le principal objectif, c'est qu'en fait, ils s'envolent, ils volent de leurs propres ailes et on leur dit, bah voilà, moi je te propose d'utiliser cette méthode-là parce que je pense que c'est ce qui te convient le mieux par rapport à tout ce qu'on s'est dit. T'essayes de ton côté, t'essayes la méthode, tu appliques les conseils que je t'ai donnés et ensuite au prochain rendez-vous on voit ce que ça donne. Mais en fait on laisse les étudiants quand même travailler d'eux-mêmes. Et c'est, quand on va proposer une méthodologie, on attend aussi de l'étudiant de nous dire si ça lui convient, si quand il a testé ça a fonctionné ou pas, et comme ça on va trouver autre chose. C'est vraiment un travail en collaboration à deux. On n'est pas du tout sur une relation enseignant-élève. On est vraiment, voilà, on avance ensemble et on essaye ensemble de trouver des solutions et une solution adaptée à chaque étudiant.
Et donc en ce qui concerne le podcast qui a été créé cette année, donc vous avez créé 4 épisodes. Qu'est-ce que les étudiants et les étudiantes peuvent y trouver dans ces épisodes ?
Alors, donc, dans ces épisodes, on a des informations générales sur l'université, des petits tips de la vie étudiante, par exemple, les meilleurs endroits où réviser, les endroits où faire une pause, les services qui sont proposés à l'université. Donc ça, c'est des informations plus globales. Mais en fait, le cœur du podcast, c'est surtout les tips, par exemple, de gestion du temps. Par exemple, on va expliquer... Voilà, là, les examens vont arriver, il va falloir organiser votre temps autour de vos cours qui continuent et des examens qui arrivent, et donc de vos révisions. Donc, comment vous allez organiser vos semaines ? Et on va expliquer très concrètement en disant, voilà, vous prenez votre planning, vous découpez en plage horaire, etc. Et donc, sur plein de thématiques différentes, on va donner ce genre de tips très concrets et que les étudiants vont pouvoir mettre en place immédiatement après avoir écouté le podcast, ils peuvent le mettre en place et essayer.
Et justement, donc pendant ces podcasts, vous recueillez des témoignages. Quelles sont les méthodes de travail que vous avez pu découvrir avec les étudiants ou que vous pouvez aussi partager aux autres ?
Nous, on s'est rendu compte que les étudiants travaillaient beaucoup seuls et faisaient beaucoup de lecture de leurs notes, de leur prise de notes. Du coup, nous, on leur a conseillé déjà que ça pouvait être très intéressant de travailler à plusieurs. Et aussi que, au-delà de la lecture des notes, qui est une première étape dans les révisions, il fallait aller plus loin, et ça pouvait aller de la fiche de révision à la carte mentale, aux flashcards, voilà, toutes ces techniques-là qui correspondent pas forcément à tout le monde, mais chacun peut trouver sa méthode qui va correspondre à sa manière de travailler. Et du coup, c'est ça qu'on essaye. On essaye d'élargir les horizons des étudiants sur toutes les méthodes qui existent. On peut combiner plusieurs méthodes. On peut avoir une certaine méthode pour une certaine matière et une autre pour un autre élément de cours. Enfin, voilà. Et du coup, on essaie de les accompagner dans la définition de leur méthode de travail personnalisée, en fait.
Et justement, c'est dans ces épisodes, vous parlez de gérer son stress. Quelles sont les bonnes stratégies à adopter pour, dans la période des partiels et aussi des rattrapages dans pas longtemps, quelles sont les bonnes stratégies à avoir pendant ces périodes ?
Alors là, dans le dernier épisode, l'épisode 4, on a parlé de la sophrologie avec un ancien de sophrologie de l'université de Caen qui travaille au service de santé étudiant. Donc ça peut être un bon moyen de gérer son stress. Nous, notre conseil principal, c'est de bien s'organiser. Et donc déjà de faire un planning des deadlines qui arrivent, des examens qui arrivent, de se dire ok là, prochain examen c'est dans 2 semaines, il me reste ça à réviser, j'ai déjà révisé tout ça, donc ça veut dire qu'il me reste, je sais pas, 4 chapitres à revoir en 5 jours, comment je m'organise? Et on s'organise, on fait une sorte d'état des lieux en fait de où on en est pour chaque examen, et puis pour être prêt et surtout pas être pris au dépourvu au dernier moment. En général, c'est quelque chose qu'on fait, qu'on essaye de faire, ce petit état des lieux, au moins 3 semaines, 1 mois avant le début des examens, vraiment pour voir où on en est et avancer plus tard. Mais ça ne veut pas dire qu'on commence les révisions 3 semaines, 1 mois avant les examens. Mais voilà, ça permet en fait de mettre les choses sur la table et de voir où on en est, et du coup d'avancer. On navigue plus à vue, on sait où on va en fait. Et du coup, on a parlé donc dans les autres épisodes de ces fameux emplois du temps, planning de révision. Voilà, ça permet vraiment de réduire le stress parce que ça réduit la charge mentale. C'est comme faire des to-do list, ça pareil, on en parle dans les épisodes. Faire des to-do list, ça réduit la charge mentale, ça désencombre l'esprit et ça permet d'avancer et de réviser un peu plus sereinement en tout cas.
Et aussi, donc, on parle aussi de réussite, mais aussi on parle d'échec. Y a les étudiants quand vous avez dit qu'ils redoublent, qu'ils viennent vous voir, qu'est-ce que vous dites à ces étudiants pour faire face à l'échec, pour garder le moral finalement?
Alors nous, on dit aux étudiants que pour nous, à nos yeux, en tant que pôle accompagnement aux réussites étudiantes, la réussite, c'est pas seulement la réussite académique, donc c'est pas seulement réussir son année du premier coup sans aller au rattrapage. Une réussite pour nous, ça peut aussi être un redoublement, dans le sens où voilà, dans une année universitaire, il peut se passer beaucoup de choses pour les étudiants sur le plan personnel ou académique. Et des fois, un redoublement, c'est une deuxième chance en fait de réussir sur le plan académique. Et du coup, quand un étudiant redoublant vient nous voir, déjà on dit bah déjà c'est bien, t'es venu nous voir, t'as pris voilà cette possibilité, t'as saisi cette opportunité. Donc voilà, maintenant t'es plus tout seul et on va pouvoir avancer ensemble et faire en sorte que cette année se passe mieux que l'année dernière. On parle aussi de réussite sur des questions de réorientation, par exemple. Voilà, un étudiant sur l'année, il a réfléchi, il s'est dit, mais en fait, finalement, c'est pas ça que je veux faire autre chose. On s'est dit, bah, c'est une réussite parce que t'as pris une décision, t'as mûri sur cette année-là et t'as trouvé une autre formation qui pourrait te correspondre. Pour nous, c'est aussi une réussite. Et aussi, on explique que les parcours à l'université sont rarement linéaires. C'est rare qu'un étudiant aille de la première année de licence en M2 sans redoubler, sans réorientation, sans jamais aller au rattrapage. Voilà, et encore une fois, c'est pas ça qui fait la valeur d'un parcours universitaire, si on a redoublé ou pas, si on s'est réorienté ou pas.
Et quand vous les accompagnez, quels sont les retours que vous avez des étudiants ?
Alors la plupart du temps, ils nous disent qu'ils apprécient beaucoup le fait de pouvoir parler à quelqu'un de manière très concrète de leurs études. Donc c'est-à-dire qu'on parle vraiment avec ces étudiants-là de là j'ai du mal à faire face, je suis sous l'eau, j'ai beaucoup de choses à faire, comment je peux faire ? Et on arrive avec des réponses très concrètes. Et puis aussi ça leur permet de réfléchir sur leur rapport aux études et à leur, voilà, leur formation, leurs cours, etc. Pourquoi ils sont là, c'est quoi leur but sur le long terme, sur le court terme, et en fait ça leur permet de trouver des sources de motivation s'il y a une petite baisse de morale ou ce genre de choses. Certains étudiants ont besoin qu'on les voit assez régulièrement, toutes les semaines, tous les 15 jours, une fois par mois. Et en fait, le fait de savoir qu'on va se voir la semaine prochaine, ils se disent « Ah ok, la semaine prochaine, je vais pouvoir lui dire que j'ai fait ça cette semaine, que ça a bien marché, ça c'était plus compliqué, on va peut-être trouver une solution. » En fait, c'est comme un bâton de marcheuse pendant une randonnée, quoi. Donc en fait, on les soutient, on est avec eux, mais à tout moment, ils peuvent nous lâcher s'ils se sentent de le faire tout seul, en fait. Donc en fait, ça les rassure la plupart du temps.
Oui, donc ils sont assez libres aussi dans l'année, ils peuvent partir, oui. Après revenir.
Enfin, oui, tout à
c'est
fait.
C'est vraiment libre, c'est eux qui choisissent leur
exactement.
Position.
Ouais, c'est vraiment sur la base du volontariat, ils viennent nous voir parce qu'ils veulent nous voir. Nous, on leur donne des conseils. On peut dire, bah là, je pense que ce serait bien qu'on se revoie la semaine prochaine parce que voilà, il va se passer des choses dans les prochains jours, on va faire le point, etc. On peut aussi dire, bah là, je pense que t'es plutôt à l'aise, ça a l'air de bien se passer. On peut se refaire un point dans 2 mois, mais si avant, dans 2 mois, t'as besoin qu'on se voit, il y a aucun souci, on se voit, on s'écrit et on refait le point plus tôt si besoin. Et un étudiant peut très bien me dire, bon bah là, ça y est, c'est bon, j'ai eu les réponses à mes questions. J'ai plus besoin. Il y a des étudiants que j'ai vus qu'une fois. J'ai répondu à leurs questions et c'est tout. Il n'y avait pas besoin de plus, quoi.
Ouais. Donc vous êtes vraiment là pour les étudiants.
Ouais. Ah oui, vraiment, oui.
Et en ce qui concerne les podcasts, enfin 4 épisodes, est-ce que vous avez pu avoir des échos d'étudiants qui ont écouté le podcast, comme quoi ça a été bénéfique?
Oui, bah, j'ai un étudiant que je suis en suivi individuel qui m'a dit qu'il avait écouté les podcasts. Alors bon, du coup, il y avait certaines redites parce qu'il y a des choses qu'on voyait déjà ensemble, mais il a entendu du coup des témoignages d'étudiants, ou notamment le témoignage de Gaspard qui est tuteur en histoire. Et en fait, ça lui a permis d'avoir un autre point de vue en fait sur les études, sur la manière de réviser, en plus le point de vue d'un étudiant plus âgé qui est déjà en master, etc. Donc voilà, ça lui a donné une autre perspective qui a fait évoluer son rapport à sa formation et à comment il travaillait au quotidien, en tout cas.
Donc ça lui a permis aussi de redonner confiance en lui.
Ouais, tout à fait, exactement.
C'est très bénéfique. Et du coup, pour l'instant, vous avez fait 4 épisodes, on le redit. Quels sont les prochains épisodes? Est-ce qu'il y en aura d'autres? C'est la prochaine...
Suspense. Donc oui, il y aura un dernier épisode pour cette saison, donc le 5e épisode. La thématique, ce sera du coup... on va faire un peu un bilan de l'année, de tout ce qu'on s'est dit cette année. Donc ce sera un bilan avec les étudiants, parce que ce qui nous intéresse, c'est le bilan de l'année des étudiants. Et on va essayer de voir un peu comment se projeter pour l'année prochaine, en fait, comment préparer l'année prochaine. Et puis les étudiants, eux, qu'on va rencontrer dans le podcast, eux, est-ce qu'il y en a qui se réorientent? Est-ce qu'il y en a qui partent à l'étranger? Est-ce qu'il y en a qui redoublent? Est-ce qu'il y en a qui continuent? Enfin voilà, et savoir un peu leur ressenti et comment ils le vivent. Et du coup, on essaie de recueillir plein d'expériences différentes aussi pour montrer à quel point les profils sont multiples à l'université et qu'être étudiant à l'université, ça se fait de plusieurs manières différentes. Il n'y a pas un seul profil.
Et ces étudiants donc, qui vont parler à la fin du podcast, enfin, de l'épisode, est-ce que ce sont les étudiants que vous accompagnez tout au long de l'année?
Alors, il y en a certains qu'on a accompagnés cette année, donc on connaît bien, et du coup, on aimerait revenir avec eux sur le suivi qu'ils ont eu cette année, avoir un peu leur point de vue à eux, parce que voilà, moi, j'explique, c'est très bien, mais c'est bien aussi de savoir eux comment ils l'ont vécu. Mais il y aura aussi des étudiants qu'on n'a pas suivis, voilà, pour essayer de récolter, comme je disais, un maximum de profils différents et d'expériences différentes.
Et ça, vous faites un appel sur les réseaux ou c'est vous qui le faites?
Alors là, pour les étudiants qu'on suit, on a demandé à ceux qu'on suit. Et puis pour les autres, on aimerait bien faire un micro-trottoir, là pour le dernier épisode, pour essayer d'avoir les étudiants qui sortent des partiels, ceux qui vont en partiel. Voilà, comme il y a encore un peu de monde sur le campus, on peut réussir à en avoir quelques-uns. Mais sinon, oui, dans les couloirs, etc., on est dans le bâtiment B, donc on en croise encore beaucoup des étudiants, donc je pense que ça va se faire comme ça. On l'a pas encore enregistré, mais c'est ce qu'on a en tête, en tout cas.
Et d'où il paraîtra quand cet épisode?
Normalement, courant juin. C'est... Voilà, j'ai pas de date exacte, je peux vous dire maintenant, mais pendant le mois de juin, oui.
C'est parfait. Et donc, avant de terminer donc, l'interview... Est-ce que vous pouvez nous dire sur quelle plateforme on peut trouver les podcasts?
Eh bien, le podcast, vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes de streaming. Spotify, Deezer, Apple Music, tout.
Merci, Bérénice Diken, d'être venue répondre à nos questions dans Fake News.
Merci.
Et je tiens à dire que cette conviction de la jeunesse ne peut être aujourd'hui renforcée.
Selon le dernier rapport de l'association Règles élémentaires, financée donc par l'État, près de 4 millions de femmes seraient victimes de précarité menstruelle en France en 2023. Pour rappel, la précarité menstruelle, c'est lorsque les étudiantes éprouvent des difficultés quant à l'accès des protections hygiéniques. Récemment, une enquête a été ouverte par l'Université de Caen pour mieux lutter contre la précarité menstruelle. Pour nous en parler, nous recevons Bérénice Setter, étudiante en sage-femme et vice-présidente étudiante du conseil académique de l'Université de Caen. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes à l'initiative de cette enquête. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire cette enquête?
Alors déjà, c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement, peut-être qui a un rapport avec mes études, certainement. Et puis aussi, c'est une des préoccupations des étudiants qui revient régulièrement. J'ai moi-même proposé quelques projets pour permettre de lutter un petit peu mieux contre la précarité menstruelle. Et puis, je suis vraiment impliquée sur le sujet.
Comme tu es étudiante en sage-femme, est-ce que c'est un constat que tu fais que les étudiantes ont moins accès aux protections hygiéniques?
Alors, la population étudiante, elle est particulièrement touchée par la précarité menstruelle. Après, il y a beaucoup d'autres catégories de personnes qui sont touchées par la précarité menstruelle. Il n'y a pas que les étudiants qui sont touchés par la précarité menstruelle, mais c'est un facteur de plus qui vient s'ajouter à la précarité que la population étudiante subit déjà.
Et quelles sont les autres personnes qui sont peut-être touchées par cette précarité ?
Alors, c'est ça. En fait, il y a déjà la précarité. Enfin, quand on est déjà précarisé, effectivement, le fait d'être une personne menstruée, et ben, ça vient ajouter à cette précarité qui était préexistante à la base. Donc, forcément, c'est un facteur additionnel.
Du coup, il y a un objectif pour derrière cette enquête. Quel est cet objectif ?
L'objectif, c'est vraiment de cibler les attentes, les besoins des étudiants et étudiantes sur cette lutte contre la précarité menstruelle pour mieux adapter nos moyens de lutter contre la précarité menstruelle.
Et notamment, cette enquête, c'est un questionnaire qui comporte 22 questions. Quelles sont les principales questions auxquelles les étudiantes peuvent répondre de manière générale? Pas toutes, mais quelles sont les principales questions auxquelles peuvent répondre?
Alors déjà, ce qui est important de préciser, c'est que c'est un questionnaire qu'on a réalisé avec le CROUS également. Donc le but, c'est aussi de permettre au CROUS d'avoir des réponses, non pas que sur l'université de Caen, mais aussi sur les autres universités, et même pas que sur les universités, parce que il y a d'autres personnes qui sont étudiantes et qui ne sont pas à l'université. Donc déjà, il n'y a pas que les étudiants de l'université de Caen qui peuvent répondre à cette enquête. Et après, sur... les questions qui composent cette enquête, déjà il y a plein de contexte, de questions de contexte de base. Donc on veut savoir qui sont ces étudiants, à quel niveau est-ce qu'ils étudient, est-ce qu'ils sont ou non boursières. Et puis après on rentre un petit peu plus en détail sur le contexte de cette précarité. Est-ce qu'il y a des problèmes d'assiduité qui sont qui viennent s'ajouter à la précarité menstruelle? Est-ce que cette précarité menstruelle les empêche d'aller en cours? Est-ce qu'il y a des répercussions sur leur santé? Est-ce qu'ils doivent faire des choix entre acheter de la nourriture ou des protections périodiques? Enfin voilà, tout un tas de questions après. Et puis on a la dernière partie qui est vraiment consacrée à nos dispositifs de lutte, donc quels qu'ils soient. Et là, on rentre vraiment en détail dans cette partie-là.
Et cette enquête, donc, elle a été ouverte depuis le 18 mars. Quels sont les retours? Est-ce que vous avez au moins eu des retours des étudiants?
Oui, on a un petit peu moins de 450 réponses sur toute la Normandie, 250 à peu près qui viennent de l'Université de Caen.
Et quels sont ces retours? Enfin, quel est le constat que vous faites à partir de ces réponses?
Alors déjà, on constate qu'il y a une incidence qui est à peu près comparable aux chiffres qui sont avancés par d'autres associations sur la précarité menstruelle pour le nombre de personnes touchées. Et puis sur la partie dispositif de lutte contre la précarité menstruelle, on constate que les étudiants et étudiantes sont globalement satisfait que ça existe, mais il y a beaucoup de limites qui sont constatées. L'une des principales limites, c'est les protections en elles-mêmes qui sont mises à disposition, puisque la plupart du temps, ce qui reste disponible dans les distributeurs de protection, par exemple, qui sont dans les toilettes de l'université du CROUS, ça va être des tampons. Donc, c'est des protections qui ne conviennent pas à tout le monde. Et puis, du coup, bah, ça limite la portée de ces dispositifs. Il y a aussi des problèmes d'approvisionnement et puis aussi des problèmes de flux, puisque les protections qui sont mises à disposition, encore une fois, ne conviennent pas à tous les flux. Et donc, du coup, ça, c'est un axe d'amélioration majeur.
Et justement, donc, tu parles du fait que les dispositifs ne sont pas souvent approvisionnés. Et comment ils sont approvisionnés, ces dispositifs?
Alors, ils sont approvisionnés par le bureau de la vie étudiante et notamment par les étudiants relais qui sont chargés de les remplir. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Il n'y a pas encore de dispositif qui permet d'alerter sur le fait que ces distributeurs soient vides. Malheureusement, mais c'est aussi une des pistes d'amélioration qui ressort de cette enquête.
Et justement, donc, par exemple, bah, aux toilettes de la bibliothèque de Sydney, il y a des étudiantes qui se plaignent, enfin qui n'ont plus de, enfin de protection hygiénique. Comment du coup on peut améliorer, comment on peut pallier ce manque, enfin qu'est-ce qui peut être amélioré?
Alors je pense justement que c'est le but de l'enquête, je pense qu'on peut faire plein de choses pour que ça s'améliore. On peut par exemple mettre à disposition des QR codes pour alerter quand il y a besoin de refaire le stock. Je pense qu'il y a aussi une question de diversification des dispositifs qui est assez importante, puisque encore une fois, si on veut convenir à toute la population étudiante, il faut diversifier aussi les types de protection qui sont mis à disposition et les modalités. Par exemple, il y a beaucoup d'étudiantes qui demandent, qui demandent des protections réutilisables, donc plutôt des culottes menstruelles.
Donc ça, c'est comment c'est possible de les avoir, enfin, comment ça va se passer pour qu'il y en ait plus?
Alors, il y a plusieurs associations qui distribuent ce genre de protection et qui font des demandes de subventions auprès de la CVEC pour pouvoir proposer aux étudiants et étudiantes sur des événements de distribution ponctuelle. Ça passe globalement plutôt par ces associations quand c'est ce genre de distribution avec des produits réutilisables.
Donc il y a des progrès qui vont être faits à la rentrée de septembre?
T'as espéré.
On y croit. Et après 2 ans d'attente, donc dans l'actualité, le remboursement des protections périodiques donc réutilisables sera mis en place donc à la rentrée. Et comment vous accueillez cette annonce?
Alors effectivement, c'était vraiment attendu, puisque comme tu viens de le dire, ça fait 2 ans que c'était en suspens. Donc, c'est une avancée. Après, ça va pas tout résoudre, parce que déjà, il faut considérer le fait que les protections, si elles sont réutilisables, il faut pouvoir les laver dans des conditions d'hygiène qui sont satisfaisantes. Et donc, ça suppose d'avoir quelques moyens au minimum pour le faire. Et puis, il y a aussi une question de limite de nombre, puisque ce sera limité à 2 par an. Mmh. Et puis, il y a aussi une limite d'âge, puisqu'il n'y a pas que les personnes qui ont moins de 26 ans qui sont en situation de précarité menstruelle. Donc, c'est une avancée, mais il y a vraiment beaucoup de limites et je pense qu'il y a beaucoup de pistes d'amélioration aussi là-dessus.
Est-ce que ça pourrait avoir un impact sur la distribution donc gratuite des protections hygiéniques à l'Université de Caen?
Alors, ces protections, elles seront remboursées qu'en allant en pharmacie les prendre. Donc, il n'y a pas vraiment de lien entre la mise en place de cette loi et puis l'université. Mais je pense qu'il faut prendre en compte les limites et puis nous faire ce qu'on peut pour compléter cette nouvelle mesure.
Et des universités donc, comme celle de Limoges mettent en place des congés menstruels. Donc, et les syndicats de l'Université de Caen, comme Union Perrette, réclament la restauration de ces congés. Est-ce que cela pourrait s'envisager à la suite de l'enquête que vous effectuez?
C'est des discussions et des demandes effectivement qu'on remet sur la table assez souvent. Ça va peut-être pas assez vite, à notre goût, en tant qu'étudiant et étudiante. Donc, j'espère que ça arrivera prochainement, et en tout cas, on fait tout pour.
Et donc ça, c'est un projet qui vous touche. Et comment ces congés pourraient être instaurés à l'Université de Caen? Enfin, c'est un projet qui réfléchit.
Je ne peux pas encore donner de détails, puisque c'est loin d'être décidé. Il y a des points qui sont discutés, notamment le fait que ce serait bien d'inclure d'autres raisons d'avoir une dispense d'assiduité que les dysménorrhées. Donc par exemple que ce soit pour des raisons par exemple pour une maladie chronique, pour des choses comme ça. Après, il y a plein de sujets de discussion, notamment sur le nombre de jours qui seraient disponibles, autorisés, sur l'éventualité de faire un justificatif ou de ne pas le faire, justement. Voilà, il y a plein de choses qui sont en discussion. En tout cas, j'espère que ça arrivera bientôt.
Oui, parce que ça bloque en ce moment. Enfin, qu'est-ce qui bloque en soi? C'est les discussions, enfin, c'est...
Mais effectivement, il y a beaucoup de raisons, notamment il y a des conséquences sur le parcours académique, sur par exemple si ça si ces jours ils sont utilisés pendant les évaluations, effectivement, ça peut poser problème. Et puis, je pense qu'aussi, il y a un blocage sur les mentalités.
C'est encore des progrès vraiment à faire pour que ça prenne forme.
Oui, tout à fait. Et c'est pour ça que c'est important de parler des menstruations, de tous les problèmes qui y sont liés. Et puis, c'est encore un sujet qui est tabou malgré les progrès qui ont pu être faits. Je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire.
Et concernant donc, votre enquête, jusqu'à quand peut-on répondre au questionnaire ?
On peut toujours y répondre, il est encore disponible.
Et il est disponible où ? Enfin, est-ce que tu peux nous rappeler où et comment on peut répondre au questionnaire ?
Alors, il y a le Crous a envoyé à l'ensemble des résidents et résidentes de la résidence l'enquête par mail. Et sinon, de temps en temps, les associations étudiantes le relaient. Et puis, il est aussi disponible sur le site de l'université.
Merci Bérénice Setter d'être venue répondre à nos questions.
Merci.
FacNews, c'est fini pour aujourd'hui. Merci Emile à la technique. Et merci pour votre écoute. Et on se retrouve comme la semaine prochaine, même jour, même heure. Vous pouvez retrouver notre podcast sur phoenix.fm. Vous retrouvez tout de suite Enzo pour l'émission de la Méridienne. D'ici là, passez une très bonne journée sur Radio Phoenix.